Le CIPCA, le salon de l'immobilier bas carbone sur Radio Immo et Radio Territoria.
Et bienvenue sur les antennes de Radio Immo et Radio Territoria. Nous faisons vivre depuis ce matin cette cinquième édition du salon bas carbone, le CIPCA, ici depuis Paris, dans le 8e arrondissement, dans ce magnifique écrin qui est donc le Grand Palais. Nous recevons ici de nombreux invités pendant ces trois jours. Bonjour Astrid Veil.
Bonjour Jean-Baptiste.
Et approchez-vous du micro, il est un peu loin de vous en même temps, je suis désolé. Voilà, on va le rapprocher.
C'est mieux comme ça.
Ça va bien Astrid ?
Ça va très bien, merci. Je trouve qu'il fait très chaud sous ce dôme de verre magnifique.
Oui.
Qu'il était besoin de démontrer que les immeubles en verre, c'est le monde d'hier.
Voilà, exactement. Et qu'il faut peut-être un peu plus de végétation aussi. Ça permettrait de gagner quelques degrés. Vous êtes directrice générale de Groupama Immobilier. Groupama Immobilier indique avoir réduit de 21% l'intensité carbone de ses actifs tertiaires entre 2020 et 2024. Vous intervenez également cet après-midi au CIPCA dans le grand débat atténuation, adaptation, résilience, l'immobilier à l'épreuve du climat. Vous gérez-vous un patrimoine long terme, hein, c'est ce qu'on dit, de long terme.
Oui.
Est-ce qu'aujourd'hui un immeuble qui ne se décarbone pas ou qui n'est pas adapté aux fortes chaleurs risque tout simplement de perdre de sa valeur ?
Alors moi je pense que oui, je ne suis pas la seule. Il y a eu un baromètre qui a été publié par un de vos chers confrères ce matin, où les investisseurs à 50% disent que les immeubles perdent au moins 15% de leur valeur. Mmh. Après, ça n'est qu'un sentiment, ce n'est pas quelque chose qui est très facile à objectiver. Hein. Il n'y a pas de méthode mathématique qui permette de dire qu'un immeuble qui n'est pas sur la bonne trajectoire crème va perdre de sa valeur. On sait quand même qu'un immeuble qui ne respecte pas le décret tertiaire et qui ne pourra pas le respecter ne va pas séduire beaucoup les nouveaux investisseurs.
Oui.
Mais voilà, on n'a que des faisceaux comme ça et on a un peu de mal à mettre des sommes et des pourcentages en face de ça. Mais ce qui est sûr, c'est que dans un monde comme celui d'aujourd'hui, où l'immobilier, notamment tertiaire, mais on pourrait dire aussi le résidentiel, aussi l'immobilier logistique, eh bien, il y a du bon immobilier, du mauvais immobilier. Mmh. Et il y a certainement trop d'immobilier de bureaux. Eh bien, ceux qui vont tirer leur épingle du jeu, c'est ceux qui ont le moins de défauts. Et donc, les atouts d'un immeuble, c'est en un, sa localisation, vous le savez bien.
Évidemment.
Mais ça va être en deux, ses capacités techniques, y compris sa capacité à résister et à anticiper le climat de demain.
Alors justement, est-ce que et la réponse est oui, évidemment, mais le risque climatique commence déjà à peser, j'imagine, dans vos décisions d'investissement, de rénovation,
ouais,
ou même de cession.
Alors je vais vous donner deux exemples. Le premier, c'est que on devait acheter il y a quelques semaines un Burger King. Allez, je vais citer la marque.
Okay.
À Calais.
Ok.
Et on a eu un niet de la direction du développement durable parce qu'il ne répondait pas aux critères environnementaux. Alors on peut s'interroger quand même parce que c'était un immeuble qui était plutôt bien. Faire des steaks et des frites avec une intensité d'usage comme celle d'un Burger King, ça répond pas aux critères environnementaux d'un autre immeuble qui aurait une autre activité. Si on le compare à une salle de sport, évidemment, ça va questionner. Et on ne l'a pas acheté parce qu'on s'est dit si le locataire pourrait au moins compenser en achetant de l'énergie verte. Et il ne le fait pas. Et on a dans notre patrimoine un McDo, et le McDo, il achète de l'énergie verte. Voilà. Et donc on s'est dit, l'activité du locataire et son intensité d'usage, c'est très discriminant, mais on pourrait ne pas en tenir compte s'il y avait une forme de compensation. Donc ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple m'échappe à l'instant, et donc dès que je le retrouve, je vous le dis.
Eh ben, ce sera la bienvenue. Quand on possède beaucoup d'immeubles et que les budgets ne sont évidemment pas illimités, comment est-ce qu'on décide d'investir en premier pour réduire réellement l'empreinte carbone ?
Alors, en premier, ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. En fait, si on regarde de façon très pragmatique, ouais, la vie d'un immeuble, mmh, il est occupé. Donc, il est occupé par un locataire. Mmh. Un locataire, c'est quelqu'un qui fait pas de l'immobilier, donc déjà il faut l'accompagner dans son appréhension de la façon d'habiter dans l'immeuble. Donc l'accompagner, ça veut dire le rencontrer, ça veut dire lui donner des équipements techniques qui vont lui permettre une démarche vertueuse. C'est aussi mesurer, partager l'information, essayer de créer une démarche win-win locataire bailleur. Et par essence, un locataire avec son bailleur, ils s'entendent pas trop. A priori. En France, en tout cas, le relationnel est plutôt pas très bon. Mmh. Et donc, il faut trouver le relationnel et le moment de relation qui va permettre d'avoir cette démarche. Nous, on a opté pour la labellisation BBCA des immeubles en exploitation parce que c'est une démarche certifiée déjà. Ensuite, BBCA, c'est bas carbone et ça entraîne toute la chaîne de valeur immobilière, l'exploitant technique, le locataire et le bailleur autour d'un objectif commun. Et donc ça marche assez bien pour réussir à faire des choses vertueuses. Donc ça, c'est le sujet de la partie exploitation. Et puis après, il y a le moment de la rénovation, de la restructuration lourde. Et en fait, c'est assez contre-intuitif, mais depuis qu'on a vécu cette canicule de 2026, on a les idées un peu claires sur le fait que vivre sans clim, en fait, c'est pas possible, durablement. Donc si on rénove un immeuble en 2026, est-ce qu'on se dit, on met pas de clim et puis on verra bien? Ça, c'est une approche à court terme.
Oui, très court-termiste.
Ou est-ce qu'on met plein de clim, quitte à pas utiliser tout de suite, et on a rénové pour les 40 prochaines années? Je pense que la réponse est très simple. La preuve, c'est que ici, dans un immeuble de verre dans lequel, en thermique, on ne peut pas faire grand-chose, eh bien, on a bien trop chaud. Et donc, il faut qu'on s'attache, au moment où on rénove, de rénover pour le plus longtemps possible. Pourquoi ? Parce que si on compte en carbone, il y a 50% du carbone d'un immeuble qui se fait au moment de sa construction ou de sa restructuration. Et puis, c'est la moitié, c'est énorme. Donc, si la moitié, ça dure 50 ans,
oui, bien sûr,
c'est beaucoup mieux bien que sûr. Si la moitié, ça dure que les 10 prochaines années. Et dans 10 ans, il faut recommencer.
Et puis, tout en sachant qu'on sait tous très bien maintenant que la canicule, ce n'est plus une exception et qu'il y aura forcément des épisodes qui vont se répéter comme ça les étés à venir. Quoi.
Exactement.
La transformation de l'existence est devenue aussi un sujet évidemment central. Est-ce qu'en 2026, la règle devrait devenir conservée et transformée chaque fois que c'est techniquement possible, plutôt que de démolir et reconstruire?
Alors oui, ça devrait. Après, économiquement, ça ne marche pas très bien, parce que transformer, ça coûte plus cher que de mettre par terre et recommencer. Donc il faut essayer autant que faire se peut. Je pense que ceux qui sont les vrais acteurs de la transformation sont plutôt des gens qui sont précautionneux de ce genre de méthode. Après, des exemples de transformation, on n'en a malheureusement pas tellement à montrer pour le moment, parce que tout ça manque un petit peu d'accompagnement, peut-être par une fiscalité un peu plus favorable.
Okay.
On attend tous que quelque chose se passe, et du côté du législateur, et on le comprend aisément, c'est pas pour tout de suite.
Il faudra attendre au moins le printemps, à minima, de l'année prochaine. À partir de quel moment, justement, la rénovation, elle cesse d'être économiquement ou techniquement pertinente? Est-ce qu'il y a un seuil ou
Par rapport à quoi?
À partir du moment où on a un existant et qu'est-ce qu'on décide d'en faire,
quoi. En fait, on a un immeuble. Ouais. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer avec Excel, on va faire des business plans et on va faire varier la quantité de travaux, le loyer attendu en fonction du produit qu'on est en train de fabriquer, et on va chercher un point d'équilibre. Et ce point d'équilibre, il peut être aussi, il peut tenir compte d'un certain nombre d'éléments de philosophie du propriétaire, c'est-à-dire que, par exemple, si je prends le sujet du réemploi, utiliser des matériaux de réemploi, ça coûte plus cher que de prendre du neuf.
Ça, on ne le dit pas souvent.
On ne le dit pas souvent, mais parfois c'est ça.
Okay.
Mais on peut avoir la volonté de mettre des matériaux de réemploi, parce qu'en carbone, c'est l'autre poche. Hein,
bien sûr.
L'autre comptabilité, en carbone, ça sera plus vertueux. Et puis même, on a tout un tas de procédures de l'entreprise qui nécessitent de faire des appels d'offres, de mettre en concurrence.
Il faut peser le pour et le contre.
De choisir le moins disant. Hein.
Ouais.
Et on pourrait dire que plutôt que de choisir le moins disant, on choisit le mieux disant en tenant compte de la capacité du répondant à mettre des critères environnementaux dans sa réponse.
Et c'est ce que tout le monde fait, ça ?
Alors, c'est pas ce que tout le monde fait, mais c'est ce que certains commencent à faire. Mais il faut l'avoir décidé et inscrit dans sa politique et dans sa gouvernance. C'est pour ça que nous, ça fait quand même de nombreuses années qu'on réfléchit à ça, et on a décidé de mettre tout ce qu'on faisait, de le regrouper en allant chercher une labellisation qui s'appelle Engagé RSE, qui est le ISO 26000 de l'AFNOR. Et Engagé RSE, il faut démontrer qu'on a cette démarche à la fois pour soi-même, mais qu'elle est bien intégrée dans l'écosystème dans lequel on navigue. Mmh. Et donc avec nos parties prenantes, avec nos locataires, avec les maires des villes dans lesquelles on a nos immeubles, avec les fournisseurs, etc. Et si on arrive à faire cette démonstration, on est labellisé. Donc nous, on a obtenu le niveau exemplaire, parce que justement, ça fait très longtemps que c'est très ancré dans nos politiques.
Alors, vous avez un immeuble 5 rue Boudreau, hein, c'est ça, à Paris. Ça a été divisé par deux, a divisé par deux son intensité carbone depuis 2016 et a reçu d'ailleurs le grand prix BBCA l'exploitation au CIPCA, c'était ici même l'année dernière. Alors, c'est quoi? C'est un démonstrateur ou plutôt une méthode qui pourrait devenir réplicable et que vous pourriez désormais appliquer finalement à l'ensemble de votre patrimoine?
Alors, c'est ce qu'on va faire. On ne va pas tous les faire en même temps.
Oui, j'imagine.
Mais c'est ce qu'on fait. Et alors, le 5 rue Boudreau, c'est un immeuble haussmannien en plein cœur de Paris, à deux pas de l'Opéra.
Dans le 9e arrondissement.
Entre le Square et d'Arcet et l'Opéra. Ça s'appelle le Square de l'Opéra Louis Jouvet.
Okay.
Là où il y a une statue de Pégase, là, devant le Théâtre de l'Athénée. Voilà, pour ceux qui connaissent un peu ce théâtre. C'est un immeuble haussmannien tout à fait habituel, qui a été restructuré il y a plusieurs années. Et comment on a réussi à faire ça? Eh bien, on a emmené, grâce à cette démarche BBCA, on a emmené toute la chaîne de valeur du mainteneur, du locataire et nous-mêmes vers une démarche plus vertueuse. Et on s'est dit, on va acheter de l'énergie verte.
Ouais.
Ça coûte un petit peu plus cher.
Ouais. Mais finalement, le retour sur investissement derrière.
Ben voilà, alors le retour en investissement, en tout cas en carbone, ça fonctionne.
Ouais.
Et le locataire a accepté d'aller dans cette voie. Et c'est comme ça qu'on a réussi à obtenir les bons résultats que vous disiez.
Vous avez réussi à le convaincre.
Voilà.
Finalement, c'est quoi le plus difficile aujourd'hui à massifier? C'est les investissements, la technique ou l'implication même des occupants des immeubles?
Je pense que...
C'est un tout?
Non, mais je pense que chaque immeuble est un cas particulier.
Okay.
Et c'est pour ça que ce métier existe, hein, d'ailleurs, parce que nos gestionnaires et nos asset managers connaissent très bien les actifs et connaissent très bien les locataires. Ils ont insuffisamment le temps d'aller les voir, de mon point de vue. C'est pour ça que l'IA va permettre d'améliorer un certain nombre de sujets de travail de l'entreprise qui gère des bâtiments et libérer du temps pour que les collaborateurs puissent plus aller voir les locataires, encore plus en tout cas. Et donc chaque cas est unique, chaque locataire a sa propre stratégie. Il y a des choses que les locataires font très bien par eux-mêmes et ils n'ont pas besoin de nous. Mais nous, on se présente toujours en support et en prescription d'une meilleure utilisation des bâtiments et de nos bâtiments. Il y a des sujets aussi autour de la rénovation où on est dans une courbe apprenante avec la maîtrise d'œuvre, où on essaie de scientifiser un certain nombre de choses. On a une démarche que nous, on appelle triple A.
Okay.
Alors, on l'a démarré avec un immeuble qui passe de la bourse. Alors, ça nous faisait rigoler de l'appeler triple A. Donc, c'est le A de adaptation, le A de atténuation. Donc, ce sont des sujets dont on parle très largement ici.
Bien sûr.
Mais le troisième A, c'est l'anticipation du climat de demain. Donc, c'est ce que je disais. Triple A, ça permet aussi de rénover pour longtemps.
Mais oui.
Mais il faut vraiment que ça soit documenté dans une démarche scientifique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juste parler en disant j'ai l'intuition que voilà, ça va être mieux. Il faut vraiment le modéliser, vraiment le démontrer par la formule pour aller dans la bonne direction et prendre les bonnes décisions maîtrise d'œuvre et maîtrise d'ouvrage.
Oui, parce que si je reprends un exemple, par exemple, de la ville d'Angers, en Maine-et-Loire, qui a atteint, alors sur l'une des deux périodes de canicule, les deux premières en tout cas, jusqu'à 45 degrés. C'est-à-dire que dans cette ville-là, il faut savoir qu'il faisait un peu plus chaud que dans 90% du reste du globe. Alors évidemment, c'est absolument exceptionnel, mais il n'en est pas moins vrai qu'on a subi des canicules et qu'on va en subir encore d'autres. Si on se projette maintenant, dans quelques années, en 2050, s'il fait 40 degrés, 45 degrés en 2026, je ne sais pas combien il va faire en 2050. Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous rénovez, est-ce que vous pensez justement déjà à 2050, quand vous concevez le bâtiment pour les températures et les usages de 2050?
En fait, 2050, c'est dans 24 ans.
Ouais, et c'est loin et proche à la fois.
Et 24 ans, ce qu'il faudrait vraiment pas, c'est qu'on soit obligé de recommencer, parce qu'en 24 ans, on serait déjà dépassé par les températures de demain. Alors, avant, on se fixait 2030 comme horizon. Maintenant, on se fixe 2050 comme horizon. Mais ce qu'il faut voir, c'est que de toute manière, quand on entreprend des travaux importants, si on regarde que le ROI immédiat, on va dans le mur. Et tout le monde n'a pas la chance comme nous d'avoir une possibilité de compter sur le très long terme. Parce que les retours sur l'investissement, ils se regardent sur le long terme. Donc, si on fait un aller-retour, on a acheté pour revendre, eh bien, effectivement, c'est plus difficile de faire plus de travaux d'anticipation, parce qu'on a le sujet du retour sur investissement immédiat.
Oui.
Mais nous, on détient pour très longtemps et on est nombreux à détenir pour longtemps. Donc ceux qui détiennent pour longtemps comme nous, qui sont les assureurs, qui sont les investisseurs à long terme, on a plus de capacité que les autres et donc on doit être prescripteur et fer de lance de la décarbonation.
Ce sera ma dernière question avant de vous remercier d'avoir gentiment répondu à notre invitation. Mais si vous aviez, vous, par exemple, une décision clairement à prendre demain matin pour accélérer réellement la décarbonation et l'adaptation du parc immobilier français, ce serait quoi cette décision si vous aviez la possibilité de la prendre ?
Ah, moi, je voudrais créer un amour et une compréhension entre le bailleur et le locataire qui ferait qu'on s'entende.
C'est pas un vœu pieux, ça ?
Vous ne m'avez pas demandé autre chose qu'un grand rêve, donc je vous le dis.
C'est vrai.
Mais je pense que c'est quand même atteignable, parce qu'il y a des pays où les relations se passent beaucoup mieux. Je pense qu'on a tout à faire ensemble. Nous, on n'est pas dans le bâtiment, eux, ils ne sont pas dans l'immobilier. Il suffit qu'on arrive à s'entendre sur des choses qui... surtout sur des discussions qui seraient dépassionnées des sujets économiques. J'entendais une conférence ce matin... où on disait, il y avait un intervenant qui disait « Oui, bah, on a proposé au locataire, puisqu'il va faire des économies de charges, de le remettre dans le loyer, ça nous permet de financer les travaux. » Et quand on lui a dit « Est-ce que vous l'avez beaucoup fait, ça ?» Il a dit « Parfois, on y arrive un petit peu, tout ça. » Donc on lui a dit bah, « Présentez-nous le locataire qui accepte de faire ça. » Et en fait, force est de constater qu'on a du mal en fait, à traduire une économie de charges potentielle en loyer supplémentaire qui va permettre de faire plus de CAPEX. On n'arrive pas à faire ça. Donc il faut qu'on s'entende mieux et qu'on arrive à avoir plus de respect l'un envers l'autre pour faire des choses vertueuses ensemble.
Et pourquoi ça marche mieux ailleurs ? Alors, parce que vous disiez que dans certains pays, ça semblait mieux s'entendre.
Apparemment, hein, de ce que j'ai entendu, dans les Nordiques, le relationnel est bien meilleur. Il n'y a pas besoin de se contractualiser des économies de charges pour pouvoir faire des choses intéressantes ensemble.
Donc c'est possible.
Je pense que c'est possible.
Astrid, une dernière question. Pourquoi c'est important pour vous aussi d'être présent ici sur ce salon du CIPCA ?
Moi, j'aime bien les salons de rentrée parce que ça met les idées en place.
Ouais.
La semaine dernière, on s'est rencontrés d'ailleurs. J'étais à la REF. Oui, voilà. La rencontre des entrepreneurs de France. Et la REF, c'est important parce que c'est la rencontre des entrepreneurs des PME et des ETI. La rencontre avec la France qui travaille. On parle beaucoup de menaces sur l'économie de notre pays. La menace est réelle, mais ceux qui peuvent faire l'économie de la France de demain, c'est bien les patrons des entreprises. Et donc, moi, je trouve que c'est important d'être présent et en soutien de ceux qui entreprennent en France.
Donc ça, c'était la REF.
C'était mercredi et jeudi. Vendredi, j'étais à l'UED. L'Université de l'économie de demain. Alors, c'est pareil. C'était pour l'économie de demain que j'y étais. Alors, tout ça, évidemment, est très visité par l'ensemble du monde politique, surtout à quelques mois des élections.
Oui.
Mais c'est pas grave, en fait. Ça marque bien la volonté d'aller retrouver une force vive, l'envie de travailler, l'envie d'aller de l'avant, l'envie de reconstruire un certain nombre de modèles de business. Par exemple, moi, il y a un sujet qui me tient à cœur, c'est celui de l'industrialisation de la France. Je pense que la France a laissé partir son industrie par facilité, hein, par économie monde, et que on peut se dire aujourd'hui que c'était peut-être dommage de le faire comme ça, et que peut-être on peut réindustrialiser la France et recréer de l'emploi et une souveraineté et une indépendance vis-à-vis du reste du monde sur la fabrication de tout un tas de produits. Je sais pas, les médicaments, par exemple, ou certains produits manufacturés. Et comme on a de la place, parce qu'on a trop de bureaux, on va pouvoir faire ça, de la réindustrialisation.
Et c'est un vrai sujet aussi. Effectivement, il y a beaucoup de choses
donc
à dire.
Donc, votre question, c'était pourquoi je suis au CIPCA.
Ben oui.
Voilà, c'est un peu la quadrature du cercle. Venir se redire qu'il faut aller vers une économie durable, c'est indispensable. Et je pense qu'avec ces trois événements de rentrée, on a les bonnes idées en place et en tête pour démarrer un travail de fond sur nos différentes dans nos différentes maisons auprès de nos collaborateurs avec des projets qui vont avancer dans l'action.
Mais oui, la rentrée, c'est la bonne volonté, c'est du dynamisme aussi, ça fait du bien.
Exactement.
Ça fait du bien par les temps qui courent. Merci Astrid d'avoir gentiment répondu à mes questions.
Avec plaisir Jean-Baptiste.
Merci également de votre fidélité. Ne partez pas, on revient dans quelques instants, toujours ici, depuis le Grand Palais, pour vous faire vivre cette 5e édition du CIPCA, le salon bas carbone. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.
Le CIPCA, le salon de l'immobilier bas carbone sur Radio Immo et Radio Territoria.